Le 28 mars 2011, le satellite SWIFT de la NASA capture pour la première fois un phénomène impressionnant. Dans la constellation Draco, à presque 4 milliards d'années-lumière de votre cuisine, une étoile qui passait près d'un trou noir s'est littéralement fait aspirer et a explosé. Un trou noir est une étoile, mais comme elle n'émet aucun rayonnement, n'a aucune lumière, elle est invisible. Sa caractéristique la plus impressionnante est sa masse. Notre Soleil a un diamètre de près de 1,4 km. Eh bien, un trou noir ayant la même masse que le Soleil ne serait que 3 km de diamètre. À cause de sa masse phénoménale, le trou noir avale tout ce qui passe à proximité, y compris l'espace-temps. C'est donc une prison à toute épreuve, quasi éternelle et faite de ténèbres. Dieu a créé des trous noirs pour nous donner un aperçu de ce qu'est la seconde mort, l'abominable endroit où sont jetés les damnés. Je finis de lire le chapitre 20 de l'Apocalypse. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. Cet étang de feu, c'est la seconde mort. On y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. La mort et le séjour des morts sont ici personnifiés, et à juste titre, car la dame à la faux ne manque pas de venir chercher tous les êtres vivants. Aucun n'est oublié. Il est vrai que Dieu arracha Enoch et le prophète Élie de ses griffes, mais ces deux hommes sont des exceptions, car tous les autres reçoivent tôt ou tard la visite de la dame à la faux. Eh bien ici, elle et sa faux sont jetées dans l'étang de feu à tout jamais, ce qui fait qu'elle n'accomplira plus sa sinistre besogne. Dans sa première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée. » Le séjour des morts tient emprisonné en son sein des multitudes de petits et grands. Ils sont en transit, mais subissent déjà la colère de Dieu. La mort et le séjour des morts sont jetés dans l'étang de feu, qui est la destination finale, l'oubliette éternelle, le trou noir de l'éternité. Il se peut que ce lieu infernal existe déjà. Matthieu rapporte que Jésus dit au bouc à sa gauche, « Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » On sait aussi que les deux premiers occupants sont la première bête, l'Antichrist, et la seconde bête, le faux prophète. Dans le Nouveau Testament, le mot le plus courant pour désigner l'enfer ou l'étang de feu est la géhenne. Elle tire son nom de l'expression hébraïque qui veut dire « vallée de Hinnom ». C'est en cet endroit, aussi appelé Tophet, et qui se trouve au sud-ouest de Jérusalem, qu'à certaines époques de leur histoire, les Israélites idolâtres offrent leurs enfants en sacrifice au faux dieu Baal, et surtout Moloch. À l'origine, c'est une spécialité des Ammonites, mais elle fait des émules parmi les Israélites. Au premier siècle, la vallée de Hinnom sert de décharge publique à la ville de Jérusalem. On y jette même les corps des criminels exécutés. Ce lieu est plein de vermine, infesté de vers, et les ordures y brûlent jour et nuit dans un feu permanent. Il s'en dégage une fumée âcre et nauséabonde. Cette vallée devient la carte postale du séjour éternel des condamnés, une image que Jésus utilise souvent. Tous ceux qui meurent sans avoir reçu le pardon de leurs péchés ici-bas devront les expier eux-mêmes dans l'au-delà. Les Écritures décrivent le lieu final du jugement de plusieurs façons. C'est un lieu de ténèbres où les damnés sont isolés les uns des autres, et dans un feu qui brûle en permanence, ce qui exprime peut-être un soupir jamais satisfait, une passion jamais assouvie. L'expression « le ver rongeur ne meurt point » et le feu ne s'éteint jamais, qu'on trouve dans l'Évangile, selon Marc, décrit probablement une mauvaise conscience qui accuse continuellement. Enfin, c'est aussi un lieu de bannissement éternel, rempli de pleurs et de grincements de dents. Une description qu'on trouve cette fois dans les Évangiles. Les damnés auront un corps indestructible, mais totalement différent du corps glorieux que posséderont les rachetés dans les cieux. La doctrine de la condamnation éternelle a toujours été un problème affligeant pour les croyants, parce que c'est totalement terrible et inexorable. Certains théologiens essayent de trouver des passages bibliques qui nuancent cette doctrine. Mais si on prend l'enseignement du Nouveau Testament tel qu'il est donné, on ne peut pas nier l'horreur du lieu de perdition. Selon les apôtres et surtout Jésus, il n'existe que deux destinées possibles pour les âmes des hommes. Soit être avec le Seigneur dans le royaume des cieux, soit être séparé de Dieu dans les temps de feu. Moi aussi je trouve ça dur, dur. D'un autre côté, cette vérité sinistre doit rappeler aux croyants que Dieu est prêt à gracier les coupables. Il nous faut donc absolument faire connaître la bonne nouvelle du pardon des péchés en Jésus à tous ceux que nous rencontrons, même s'il nous faut aller jusqu'aux extrémités de la terre, et quel que soit le coût et les sacrifices. Malheureusement, il est facile de se laisser gagner par l'insouciance et l'indifférence, ou de se laisser amuser par les diversements et les gâteries narcissiques que nous offrent d'autres cultures dépravées. L'heure est grave, et le temps presse. C'est maintenant qu'il faut se donner entièrement à la cause du Christ, informer nos contemporains qui sont en train de glisser vers le trou noir, et les inviter à placer leur confiance en Jésus avant que la dame à la faux ne vienne les chercher, car alors les dés sont jetés pour l'éternité. Nous sommes tous des pécheurs maudits. Mais il existe moyen, un seul, d'échapper à la condamnation. Reconnaître sa culpabilité devant Dieu et accepter le sacrifice de Jésus pour le pardon de ses péchés. Nous arrivons maintenant à l'avant-dernier chapitre du livre de l'Apocalypse. À partir d'ici, la vision de Jean évolue en une succession de fresques grandioses qui vont en crescendo. Depuis le tout début de l'humanité, les croyants se sont intéressés au royaume des cieux. Parlant des fidèles du Seigneur de l'Ancien Testament, l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit « C'est dans la foi que tous les gens sont morts sans avoir reçu ce qu'il leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste. » Dans le psaume 42, le psalmiste écrit « J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je venir et me présenter devant Dieu ?» Les croyants dévoués aspirent à être dans la présence de Dieu et rien sur terre ne peut satisfaire leur soupir. Dans le psaume 16, le roi David conclut sa médiation qui est aussi un cantique en disant « Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de toi. » Dans son épître aux Colossiens, l'apôtre Paul écrit « Mais vous qui êtes ressuscités avec le Christ, recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, et non vers celles qui appartiennent à la terre. Et parlant de lui-même dans son épître aux Philippiens, Paul dit « J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec le Christ, car c'est de loin le meilleur. » Mais comme je l'ai déjà dit, à cause des tentations mondaines, il n'est que trop facile pour les croyants d'oublier qu'ici-bas, ils sont expatriés et que, dans la réalité, ils sont citoyens des cieux. C'est là-haut que sont leurs possessions éternelles, leur véritable résidence, leur héritage, leur récompense et leur compte en banque. Dans sa première épître, l'apôtre Pierre écrit « Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. C'est pourquoi je vous le demande. Ne cédez pas aux désirs de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre à l'âme. » Je commence maintenant de lire le chapitre 22. « Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. » Comme c'est très souvent le cas, tout au long du livre, l'expression « puis je vis » signale l'ouverture d'une nouvelle fenêtre de la vision de Jean. Nous sommes à l'aube de l'éternité. Tous les démons, ainsi que tous les hommes de tous les temps qui ne bénéficient pas de la grâce de Dieu, sont dans les temps de feu, et l'univers tel que nous le connaissons a disparu. Maintenant que Dieu a fait le vide, on peut dire qu'on est de retour à la case départ, juste avant que Dieu ne crée le monde. Et voilà que tout à coup, du néant, ex nihilo, sortent un ciel nouveau et une terre nouvelle. Cette révélation que reçoit Jean n'est pas entièrement nouvelle, parce que le prophète Ésaïe y fait allusion deux fois. Le mot grec pour nouveau, nouvelle, signifie du tout neuf, quelque chose d'inédit, du jamais vu, qui vient de sortir et qui n'existait pas auparavant. À la première création, l'Éternel avait prévu que l'univers serait la résidence permanente de l'homme, mais il a dû le détruire, parce qu'il était corrompu par le péché, tant là-haut, dans le ciel, qu'ici-bas, sur terre. Les informations que Jean nous donne à propos du ciel nouveau et de la terre nouvelle sont très succinctes, mais il rappelle un détail important. La mer n'existe plus, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'immenses masses d'eau alors qu'aujourd'hui, elles couvrent presque les trois quarts de la surface du globe. La mer symbolise l'eau qui est l'élément fondamental de la vie sur Terre. Et, autant qu'on sache, notre planète est le seul endroit dans l'univers où elle est suffisamment abondante pour maintenir la vie. Le corps humain est constitué d'environ 65% d'eau. Mais dans les cieux, les corps glorifiés des croyants sont comme ceux des anges et n'ont donc pas besoin d'eau. Comme dans les cieux, il n'y a aucune grande étendue d'eau, on n'a pas non plus de cycle hydrologique, ce qui fait que le climat et l'atmosphère seront très différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. Il y aura cependant un fleuve, mais il ne correspond pas du tout à ce que nous connaissons. Au chapitre suivant, le 22 et le dernier du livre, Jean écrit « L'ange me montra le fleuve de la vie, limpide comme du cristal qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. » Et plus loin encore, dans le chapitre 22, on apprend aussi qu'il n'y a ni soleil ni lune, pas de nuit, et sans doute pas d'étoiles, ce qui veut dire que le rayonnement lumineux sera lui aussi tout autre de ce qu'il est actuellement. Mis à part ces quelques informations sporadiques, les Écritures sont muettes sur la nouvelle terre et le nouveau ciel. On ne sait rien de la végétation ou des animaux, ou s'il y en a. Cependant, on sait que rien ne manque et que les habitants de cette nouvelle création ne seront pas nostalgiques par rapport à la première création qu'ils ont connue. En effet, le prophète Ésaïe écrit « Je vais créer un ciel nouveau, une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses d'autrefois. On n'y pensera plus. » Toutes les promesses éternelles que l'Éternel a faites au patriarche Abraham et au roi David s'accompliront en deux temps. Le premier est le millénium et le second, la nouvelle terre. Même chose pour une prophétie de Daniel qui écrit « Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Lui-même subsistera éternellement. » Quand on lit les prophéties concernant la fin des temps, l'état éternel et le millénium sont parfois mentionnés dans le même passage, ce qui fait qu'il est très facile de les confondre. Il faut donc être rigoureux dans l'interprétation des textes et tenir compte d'un principe bien établi dans les Écritures. Principe qui dit que les événements lointains sont souvent télescopés. Le prophète Daniel, par exemple, mentionne ensemble que dans la même phrase, la résurrection des justes et des injustes, alors que 1000 ans séparent ces deux résurrections. L'apôtre Pierre fait de même en parlant du début et de la fin du jour du Seigneur, alors qu'il dure plus de 1000 ans. Parfois même, l'ordre chronologique des événements à venir est inversé. Par exemple, le prophète Ésaïe mentionne d'abord le nouveau ciel et la nouvelle terre, et ensuite seulement, il parle du règne de 1000 ans de Jésus. Je continue le texte du chapitre 21. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est préparée pour son époux. J'en passe maintenant de la nouvelle terre à sa capitale, la nouvelle Jérusalem. Elle a déjà été mentionnée dans la lettre à l'église de Philadelphie, quand le Seigneur dit « Au vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. » Puisque cette ville descend du ciel, c'est qu'elle est déjà construite et qu'elle se trouve dans les cieux. Effectivement, car dans l'Épître aux Hébreux, on lit « Abraham attendait la cité au fondement inébranlable, dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. » Et plus loin, le même auteur ajoute « Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, avec ses milliers d'anges en fête. » La vie sainte est présentée comme le but final des rachetés de tous les temps dans l'éternité, car elle sera leur lieu d'habitation. L'idée de ville sous-entend un ensemble cohérent des relations, la coopération, des activités et des responsables individuels. Parce qu'ils sont saints, les habitants de la Nouvelle Jérusalem vivront et travailleront dans un climat, une communion et une harmonie parfaites. Alors que précédemment, et en vision, la Jérusalem terrestre est comparée à Sodome parce qu'elle est la capitale de l'Antichrist. Ici, et par contraste, la Nouvelle Jérusalem est appelée Ville Sainte, car elle n'est habitée que par des saints. Il est probable qu'aujourd'hui, quand un croyant meurt, il se retrouve d'un coup, d'un seul, dans la Nouvelle Jérusalem, où Jésus l'a précédé pour lui préparer une place selon l'enseignement que le Seigneur donne dans l'Évangile selon Jean. Certains commentateurs pensent que pendant le millénium, la Nouvelle Jérusalem est une ville satellite quelque part dans l'espace qui sert de résidence principale aux croyants, qui font l'aller-retour avec la terre où ils règnent avec le Seigneur et font leur travail. Pourquoi pas? La Nouvelle Jérusalem est une ville sainte, mais aussi belle comme une mariée qui s'est préparée pour son époux. C'est aussi un peu ce qu'écrit l'apôtre Paul dans sa seconde épître aux Corinthiens. Je le cite. « J'ai pour vous un amour qui ne tolère aucun rival et qui vient de Dieu lui-même. Je vous ai, et en effet, fiancé à un seul époux, pour vous présenter au Christ comme une jeune fille pure. La Jérusalem céleste est personnifiée en une mariée, parce qu'elle est habitée par l'épouse. L'état éternel commence donc par l'union entre l'époux, c'est-à-dire Jésus, et son épouse, l'Église, mais qui inclut, dorénavant, tous les rachetés de tous les temps. La mariée s'est parée pour son époux. Le verbe « pour parer » a donné « cosmétique » en français. Il signifie « ordonner », »,« arranger ». En d'autres mots, la mariée est d'une beauté morale éblouissante, absolument parfaite pour son époux. Dans son épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul écrit « Il, Jésus, a ainsi voulu se présenter, cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. » Je continue le texte. « Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait, « Voici, la tente de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. » C'est ici la 20e et dernière fois qu'il est question de « une forte voix » dans le livre de l'Apocalypse. Ici, ce n'est pas Dieu, mais un ange qui parle. Jean insiste lourdement 3 fois sur le fait que Dieu habitera avec les hommes au point où il plantera même sa tente au milieu d'eux. La gloire et la joie suprême du royaume des cieux émanent du Dieu en 3 personnes. Et dans l'éternité, les croyants jouiront avec lui d'une intimité qui est inconcevable dans le monde actuel à cause du péché présent dedans, dehors et partout. Dieu ne sera plus distant ou caché. Il n'habitera plus une lumière inaccessible, mais il plante sa tente au milieu de son peuple. Plus loin, Jean dit, « Je ne vis aucun temple dans la ville. Son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. » Alors se réalise enfin et finalement la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme, et qui est de jouir d'une communion parfaite avec lui. En effet, dès le livre du Lévitique, on apprend quelle est l'attente de Dieu quand il dit à la nation d'Israël « Je ferai ma demeure au milieu de vous, et jamais je ne vous rejetterai. Je vivrai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. » Ézéchiel écrit « Ma demeure sera près d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et le nom de la ville, parlant de la Nouvelle Jérusalem, sera désormais « L'Éternel est ici ». Enfin, dans sa prière sacerdotale, Jésus dit « Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je serai, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. » Ce désir du Seigneur sera satisfait dans l'éternité et pour l'éternité.